La fin du silence.
L'émission qui donne voix à ce que l'on chuchote.
Traitement de l'actualité par les étudiants de la Sorbonne Paris Nord.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur Radio Campus pour notre émission La fin du silence. Une émission spéciale préparée par les étudiants de la web radio 13e monde de l'Université Sorbonne Paris Nord. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Spotify pour écouter l'ensemble de nos podcasts et nous suivre sur notre compte Instagram, @13e monde. Je m'appelle Redouane et je vais vous accompagner tout au long de cette émission en compagnie de mes camarades. Malheureusement, les chiffres sont là et ils sont têtus. Selon le rapport de référence du Haut Conseil à l'égalité, le constat est sans appel, le sexisme ne recule pas. Plus inquiétant encore, près de 40% des femmes déclarent avoir déjà subi des rapports non consentis. Un chiffre qui nous rappelle que si la parole s'est libérée depuis 10 ans avec l'hashtag MeToo, l'écoute, elle, reste encore sélective. Au programme de cette émission, nous analyserons la couverture médiatique des grandes affaires, notamment l'affaire Jean-Marc Morandini dans une revue de presse et une chronique sur l'affaire Epstein, et plus généralement, peut-on encore séparer l'homme de l'artiste en 2026 ? Nous reviendrons aussi sur l'hashtag MeToo face au pouvoir. Nous reviendrons ensuite sur le milieu de la culture avec le festival Effraction et des recommandations culturelles, notamment littéraires et théâtrales. Mais tout de suite, pour poser les bases de notre réflexion, je laisse la parole à Masten pour son édito.
Bonjour Redouane, bonjour aux chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'une espèce protégée en France. Une biodiversité fascinante qui vit comme si de rien n'était sous le feu des projecteurs, des télés ou des couloirs de la République. Sa particularité, elle survit à tout, aux scandales, aux mises en examen et parfois même aux accusations. C'est ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence de l'audimat ou du responsable politique. En gros, tant que vous faites de l'audience, la morale est une option facultative. Prenons un cas d'école qui a fait l'actualité hier, c'est Jean-Marc Morandini. C'est une performance à ce niveau-là, voilà un homme visage de l'info sur CNews, chaîne qui, rappelons-le, a fait de la lutte contre la délinquance son fonds de commerce et qui est lui-même condamné en première instance pour corruption de mineurs. On parle pas d'excès de vitesse, on parle des castings douteux organisés à domicile où on demandait à des jeunes comédiens de se livrer à des comportements à caractère sexuel. Et que fait la direction ? Elle le maintient à l'antenne, tous les jours et en direct. Mais sauf que ces dernières semaines, ça bouge beaucoup dans les locaux de CNews. D'un côté, on a Sonia Mabrouk, la caution sérieuse et la voix de l'édito politique, qui rend son tablier et qui quitte le navire. Est-ce une prise de conscience tardive ? En tout cas, s'en est suivie une série de prises de position qui aura finalement obligé Jean-Marc Morandini de se retirer de l'antenne. Encore pour combien de temps ? On ne sait pas. Mais sa démission récente sonne comme un vent de changement. Après de longues années à s'accrocher à son siège, avec des condamnations, il lâche l'affaire. Pourquoi maintenant ? Eh bien, la justice a tranché. Or, la direction s'est engagée à le licencier en cas de condamnation. Mais la politique a aussi ses intouchables. Prenez le dossier Jack Lang, qui a refait surface, et là encore, soyons précis juridiquement. Aucune condamnation, mais une mélodie persistante et des témoignages s'accumulent. Et surtout, on a tous cette impression qui revient ces derniers temps, c'est qu'on se disait qu'il avait quand même très bien l'air de s'entendre avec Epstein. Il aurait pu voir des choses, pas commis, certes, mais dans ce cas, pourquoi il n'aurait rien dit ? Eh bien, c'est le confort de l'entre-soi. Mais les choses changent et Jack Lang, qui est contraint lui aussi de démissionner de ses fonctions du président de l'Institut du Monde Arabe, à 86 ans, le montre bien. Alors, que conclure ? Eh bien, que la justice française est lente, certes, mais que la justice médiatique, elle, est inexistante, tant que l'argent rentre, mais qu'également elle est soumise à l'opinion publique. Et ces hommes ne sont pas forts de leur insouciance, mais ils sont forts de la lâcheté de par leur écosystème. Dans le monde réel, un casier judiciaire vous ferme des portes, dans le monde médiatique, ces portes resteront entrouvertes. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas qu'avant de regarder un programme, demandez-vous qu'est-ce que vous êtes en train de cautionner.
Merci beaucoup Masten pour cet éclairage. On continue d'explorer les zones d'ombre de la médiatisation et de ces scandales. On se demande souvent si la presse en fait trop, mais qu'en est-il quand elle n'en fait pas assez ? On reste dans l'analyse des médias et des figures d'influence. Le cas de Jean-Marc Morandini a fait donc couler beaucoup d'encre. Pour analyser son retrait médiatique et la réaction de la presse face aux accusations, c'est Priscilla qui nous rejoint pour sa revue de presse. Bonjour Priscilla.
Bonjour Edouard, merci. Je vais vous faire une revue de presse. Cette semaine, l'un des animateurs phares de la chaîne d'information la plus suivie de France, CNews, s'est retiré de l'antenne sous la pression de l'opinion publique et de plusieurs personnalités. Dans l'article de Radio France du 9 février 2026, Jean-Marc Morandini propose à la direction des CNews de se retirer de l'antenne. Il est rappelé que son arrivée sur ITL en 2016 avait entraîné, je cite, la plus longue grève de l'histoire de la télévision suite à une accusation pour harcèlement sexuel. C'est lundi 9 février 2026 qu'il propose sa démission des CNews, tout en précisant, je cite, qu'il regrette profondément de prendre cette décision selon RTL. Le Monde précise, dans son article du même jour, Jean-Marc Morandini capitule et quitte l'antenne des CNews. que le directeur général de Canal+, Gérard Brice, viré, avait annoncé les 15 janvier, soit le lendemain de sa condamnation, que je cite « Jean-Marc Morandini est à l'antenne et y restera ». Vincent Bolloré le soutient également et selon l'article de Libération, Vincent Bolloré convoqué par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public du 4 février 2026. Jérémy Patrier-Letus, président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, annonce les convoquer et les questionner notamment par rapport à ses maintiens à l'antenne de Jean-Marc Morandini. En effet, il est très surprenant qu'un multi-condamné pour crimes et délits sexuels puissent rester à l'antenne aussi longtemps après une telle condamnation et même après la démission d'une de ses collègues Sonia Mabrouk et la désapprobation de la majorité de ses confrères, notamment Pascal Praud. Reste à savoir si ce retrait est définitif ou provisoire.
Merci beaucoup à toi Priscilla pour cette revue de presse. Nathan et Nicolas, vous vous êtes penchés sur un cas tout aussi troublant, celui de l'affaire Epstein. Concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Bonjour Redouane. Pour rappel, cette affaire implique un milliardaire américain, nommé Jeffrey Epstein, accusé de nombreux faits tels que trafic sexuel pédocriminel, agression sexuelle ou encore prostitution de mineurs. Cette affaire a débuté en 2005 avec la première plainte déposée à son encontre et implique de nombreuses personnalités de différents domaines comme la culture ou la politique.
En effet, il y a un peu plus d'une semaine, l'affaire est revenue sur le devant de la scène puisque le 30 janvier 2026, des millions de documents sur l'affaire Epstein sont publiés par le ministère de la Justice américaine quelques heures après. Le New York Times publie un article intitulé, je cite, « How the Times is covering the latest release of Epstein files ». Dès les premières phases de cet article, le journal américain indique qu'un groupe de reporters et d'éditeurs suivant l'affaire depuis 2019 analyse les millions de nouveaux documents publiés avec une attention particulière sur la précision et la qualité des informations. C'est même plus précisément 3 millions de pages comprenant plus de demi-vidéos et 180 mini-images supplémentaires qui viennent s'ajouter à des dossiers déjà publiés en décembre dernier. Ce très grand nombre d'informations à traiter et à analyser demande une extrême prudence pour ne pas tomber dans la désinformation.
Depuis quelques jours, l'affaire est très médiatisée et fait la une de tous les plus grands journaux à l'international et en France, ce qui est tout à fait logique en vue du nombre de personnalités impliquées ou citées dans ces dossiers. Depuis la publication de cette nouvelle vague de documents, une dizaine de jours se sont écoulés, ce qui a permis aux médias de traiter et analyser les nombreux documents dévoilés. Au-delà même de la presse traditionnelle, on en parle à la télé. Le lundi 9 février, à partir de 21h05, sur BFM TV, a été diffusé un documentaire appelé « Affaire Epstein, l'onde de choc » qui revient sur les éléments publiés le 30 janvier dernier.
Comme dit auparavant, c'est une affaire complexe qui nécessite de nombreuses heures de lecture et d'analyse. Tous les noms évoqués ne sont pas forcément impliqués dans les affaires pédocriminelles de Jeffrey Epstein. Néanmoins, il est tout à fait normal de s'interroger sur le rôle de certaines personnalités publiques, surtout quand on connaît le passé pédocriminel de l'homme d'affaires américain. Si on prend l'exemple de Jack Lang, ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, et associé à des affaires de pédocriminalité, son nom est cité plus de 600 fois au sein des dossiers publiés le 30 janvier dernier. Cependant, ce n'est jamais pour évoquer une participation à une quelconque rencontre autour de sujets aussi graves. Selon l'AFP, on parle ici d'intérêts financiers et de financement pour des projets tels que la production de films. La récente démission de Jack Lang de son poste de président de l'Institut du monde arabe, ce samedi 7 février 2026, a d'ailleurs été fortement influencée par son implication dans l'affaire Epstein et dans une affaire de blanchiment et de fraude fiscale aggravée. C'est en tout cas ce que rapporte le journal Le Monde.
Il faut également savoir que certains noms figurent dans ces dossiers sans que les personnes concernées n'aient un réel rapport avec Epstein. Par exemple, le nom du footballeur Karim Benzema qui est cité alors qu'il n'est question que d'une mention du nom de son avocat. Parfois, ce ne sont pas des personnalités qui sont citées, mais des institutions. Comme par exemple les clubs de football du Real Madrid et du Paris Saint-Germain qui sont cités car Jeffrey Epstein a cherché à obtenir des places pour un match opposant les deux équipes en 2018.
Pour conclure, il faut donc faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier et ne pas tomber dans le complotisme. Mais c'est vrai qu'une bande de milliardaires se sentant intouchables, qui se regroupent sur une île pour s'affranchir des lois, c'est curieux.
En effet, c'est assez curieux. Merci à tous les deux. Un manque de médiatisation qui pose effectivement des questions sur les protections dont bénéficient certains réseaux. On se donne quelques minutes pour respirer en musique avec Angèle Balance ton quoi.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter.
mettrai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire un oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire un balance ton corps. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
C'était Angèle, Balance ton quoi. Nous restons dans la sphère d'influence, mais cette fois-ci du côté du 7e art avec Emma et Nishta. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va revenir sur une question qui dévie souvent, surtout quand une personnalité est accusée de faits graves. Peut-on encore séparer l'artiste de l'homme en 2026?
On peut évoquer plusieurs cas emblématiques dans l'industrie du cinéma, notamment Harvey Weinstein, ce producteur qui, dès 2016, a déclenché le mouvement MeToo, ou encore le réalisateur Roman Polanski. Deux personnalités du cinéma dont les carrières ont été durablement marquées par des accusations de violences sexuelles.
Alors évidemment, l'objectif ici n'est pas de refaire les procès, ni de résumer toutes les affaires. Ce qui nous intéresse, ce sont les révélations que cela apporte sur notre société, notre culture et notre façon d'aborder l'art.
D'un côté, il y a l'argument classique. Une œuvre est une œuvre, indépendamment de son auteur. Certains disent qu'un film, un livre ou encore une musique ne devrait pas être jugé uniquement à travers la vie privée de son créateur.
Et cet argument peut sembler logique. Après tout, une œuvre, c'est aussi le travail de dizaines de personnes. Un film, ce n'est pas juste un réalisateur. Ce sont des acteurs, des techniciens, des scénaristes. Donc boycotter une œuvre, ça peut aussi impacter des gens qui n'ont rien à voir avec les faits.
Mais de l'autre côté, il y a un argument tout aussi fort. Approcher cet art, c'est de soutenir. Aller voir un film, acheter un billet, applaudir un artiste, ça participe à sa notoriété, à son pouvoir, à sa légitimité.
Et c'est là que le problème devient politique. Parce que quand une personnalité accusée de violences sexuelles continue d'être célébrée, récompensée, invitée dans des cérémonies, ça envoie un message.
Le message, c'est « ton talent peut te rendre intouchable ». Et ça, c'est exactement ce que dénoncent beaucoup de mouvements actuels, l'idée que certaines personnes sont protégées par leur statut.
Au fond, le débat n'est pas seulement « est-ce que j'aime ce film ?» C'est plutôt « quel monde je cautionne quand je continue à applaudir quelqu'un ?»
Et ce débat est compliqué, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réponse universelle. Certaines personnes vont continuer à regarder les films en séparant l'œuvre de l'artiste. D'autres vont refuser parce qu'elles considèrent que l'art ne peut pas effacer la violence.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette question prend de plus en plus de place et qu'elle oblige le public à se positionner.
Et surtout, elle oblige les institutions culturelles, festivals, cérémonies, médias à se demander est-ce qu'on doit continuer à mettre en avant certaines figures, quoi qu'il arrive?
Donc peut-on encore séparer l'artiste de l'homme?
Peut-être, si on garde un esprit critique, on n'est pas forcément pour la censure non plus. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que ça dit sur notre société?
Eh bien, merci à vous, Nishtha et Emma. On remarque que c'est un débat qui est loin d'être clos. Après la culture et les médias, quel est l'impact réel de MeToo sur les structures de domination? Je vais laisser place à Larissa et Nixana pour leur chronique « MeToo face au pouvoir ».
En effet, l'hashtag MeToo ne concerne pas seulement des histoires d'abus et de violences sexuelles, mais aussi des systèmes culturels et médiatiques qui ont longtemps su protéger les puissants.
Dans les documents révélés, de nombreux échanges e-mails entre Epstein et des figures importantes ont été exposés, suscitant des réactions et des doutes vis-à-vis des personnes mentionnées dans le dossier, si elles sont impliquées ou non.
Pour traiter cette affaire d'une autre perspective, nous nous sommes intéressés au mouvement hashtag MeToo, un mouvement lancé sur les réseaux sociaux en 2016, encourageant la prise de parole des victimes de violences sexuelles. Le média britannique The Guardian et d'autres médias français parlent du fait que plusieurs hommes puissants de la sphère culturelle ont essayé d'enterrer ce mouvement plutôt que de se focaliser uniquement sur les faits criminels d'Epstein. Mais comment un si grand mouvement a pu être étouffé par ces hommes ?
En effet, un mouvement aussi massif que MeToo n'a pas été étouffé d'un coup, mais contrôlé par des personnes influentes qui détiennent le pouvoir économique et symbolique. Nous savons que dans ce milieu, il n'est pas compliqué pour ces hommes qui sont au summum du pouvoir de neutraliser des affaires ou des mouvements. C'est en quelque sorte normalisé alors que ça ne le devrait pas. Selon The Guardian, même des grosses figures issues du milieu culturel, comme Michael Wolff, écrivain et journaliste américain, ont sollicité l'aide de Jeffrey Epstein afin de trouver des stratégies pour gérer leur réputation et contourner les conséquences sociales et juridiques. Michael Wolff voulait que Jeffrey Epstein apporte son soutien à Stephen Elliott, un acteur américain, car ce dernier voulait porter plainte pour diffamation contre Donegan, créatrice d'une liste appelée Shitty Media Man List, dénonçant des agresseurs en mars 2023. Elliott et Donegan ont conclu un règlement hors tribunal dans lequel Donegan a dû verser une somme à Elliott.
Oui, c'est ça. L'étouffement permet au réseau de pouvoir de contribuer à fonctionner sans remise en cause réelle. Par exemple, l'ancien producteur américain Harvey Weinstein a toujours affirmé que toutes les relations entre guillemets étaient consenties entre guillemets, alors que plus de 100 femmes à ce jour l'accusent de harcèlement, d'agression et de viol. Il justifie et minimise ses actes en disant avoir une addiction au sexe. Les comportements problématiques deviennent invisibles ou tolérés. L'hashtag MeToo devient symbolique plutôt que transformateur. À force, on se rend compte que la voix des femmes est de moins en moins prise en compte, alors que le mouvement a été créé dans le but de prendre la parole. La question qu'on peut se poser est donc la suivante. Que reste-t-il du mouvement hashtag MeToo aujourd'hui? Est-il devenu un simple sujet médiatique dont on parle sans que les hommes au pouvoir soient vraiment impliqués?
Tout à fait. L'affaire Epstein nous montre justement que face à un mouvement comme MeToo, des individus comme Epstein sont devenus des consultants ou même des ressources pour protéger des réputations et étouffer des scandales. Ironiquement, le vrai pouvoir finalement n'est peut-être pas seulement de commettre des crimes, mais aussi d'avoir les réseaux et les moyens pour en éviter les conséquences. Nommer un agresseur est nécessaire, mais pas suffisant dans notre société. Il faut également questionner le système qui l'a protégé, qui a rendu ces actes possibles et parfois même invisibles pendant des années.
En somme, l'hashtag MeToo ne doit pas être un épisode, mais un processus continu. Le travail consiste à utiliser cette prise de parole pour changer ce système de protection et d'étouffement. Il faut donc passer des mots aux actes.
Eh bien, merci à vous deux, Larissa et Nixana. Juste avant nos diverses revues culturelles, une petite pause musicale avec Pink Panthers et Zara Larsson, Stateside. I'm freezing outside, feel my skin tight, my coat is inside, I look up at you. Yeah.
and my Swedish boy over FaceTime. Who knew? Opening up would make me a headline. Boost, that's my ego boost. Schedule ain't been loose for a minute. Yeah, I'm that girl I've been in. Made a Swedish girl, you say. No one treats me this way. Are all boys I hear the same?
Vous êtes toujours sur Radio Campus. C'était Pink Panthers et Zara Larsson pour Stateside. Anna et Laurie nous rejoignent pour nous présenter plus en détail la programmation et l'esprit du festival Effraction. Bonjour à vous.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur le festival Effraction, son histoire et les informations pratiques pour y aller. Nous vous recommanderons également quelques rencontres à ne pas manquer selon nous. Le festival Effraction en est déjà à sa 7e édition. En effet, créé en 2020 par la Bibliothèque publique d'information, Effraction est un festival de littérature contemporaine qui a pour volonté d'explorer la question du réel dans l'écriture d'œuvres contemporaines. Le festival se déroulera du 18 au 22 février de cette année et sera entièrement gratuite. Pendant 5 jours, le festival accueillera une quarantaine d'invités, dont de nombreux auteurs de la rentrée littéraire 2025-2026, tout en proposant une programmation variée. Des entretiens où l'auteur revient sur son rapport à l'écriture du réel, des regards croisés autour de thématiques sociétales, des lectures pour donner vie au texte et d'autres événements. Le festival aura lieu à la BPI et à la Gaîté Lyrique, mais pourquoi faire le festival dans un lieu qui n'est pas dédié à la littérature ?
Au cœur du 3e arrondissement de Paris, la Gaîté Lyrique ne se contente pas d'être un simple lieu de la diffusion culturelle. Ancienne salle de spectacle métamorphosée en centre des cultures numériques et des nouvelles écritures, elle se définit aujourd'hui comme un espace engagé, où l'on interroge notre capacité à habiter l'époque et à la vivre. C'est devenu au fil du temps un laboratoire d'idées où la musique, les arts en tout genre et les débats citoyens se rencontrent pour décrypter les mutations de notre société. Et c'est précisément dans cette lignée qu'elle accueille depuis 7 ans le festival Effraction. Ce rendez-vous littéraire unique ne s'intéresse pas à la fiction pour s'évader, mais à la littérature comme outil d'effraction dans le réel. Le festival met en lumière ses autrices qui puisent dans l'actualité, l'histoire immédiate et les enjeux sociaux pour bâtir leur récit. Le lien entre ce lieu et ce festival devient alors évident. Là où la Gaîté Lyrique explore l'impact des technologies et des nouveaux médias, Effraction apporte la puissance du mot et l'analyse du récit long. La Gaîté Lyrique et le festival Effraction deviennent dès lors le carrefour où les récits d'aujourd'hui nous aident à comprendre et à appréhender le monde de demain. Mais alors Laurie, as-tu une recommandation à nous faire ?
Alors le jeudi 19 février à 18h à la Gaîté Lyrique, sans inscription dans la limite des places disponibles, venez assister à une rencontre croisée entre Grace Lee et Anya Nousri, deux autrices racisées autour de la thématique de la quête d'identité et du métissage de culture qui en découle. Deux autrices qui, dans leurs romans respectifs, offrent deux points de vue autour de cette thématique. Dans Nouveau Territoire, aux éditions Apercolin, publié le 11 février 2026, la question de l'identité se pose autour de la réflexion de vouloir s'intégrer ou non dans un monde qui ne nous correspond pas. Tandis que dans On m'a jeté l'œil, aux éditions Castor Astral, publié le 21 août 2025, Anya Nousri questionne l'influence de nos différentes appartenances sur notre individualité.
On vous invite aussi à écouter Gabrielle de Tournemire, l'autrice des Enfants uniques aux éditions Flammarion, parue en 2025. Vous pourrez la retrouver accompagnée de l'autrice de Sicario Bébé, Fanny Thaïlandier, aux éditions Paillot et Rivage, sortie le 7 janvier 2026, le tout le vendredi 20 février à 17h à la Gaîté Lyrique, autour des questions d'intégration d'adolescents en marge. À partir de leurs romans respectifs, elles s'emparent de la fiction pour y dépeindre une réalité dont beaucoup ignorent l'existence.
Merci à vous les filles, on a hâte de découvrir ce festival. Dans un instant, Alice, Lisa et Anton, vous allez nous présenter un ouvrage qui résonne avec notre thématique du jour. Je donne la parole à Lisa avec une citation du livre de Gabrielle de Tournemire, Des enfants uniques.
Pourquoi s'obstinait-on à leur apprendre à coudre, dessiner, faire une vinaigrette ou leur lit avant de leur parler de couple ? C'est d'adolescents en situation de handicap dont il est question dans cette citation, mais aussi dans l'ensemble du roman. Des enfants uniques est le premier roman de Gabrielle de Tournemire, sorti le 27 août 2025 aux éditions Flammarion, lauréat du prix envoyé par la Poste. Âgé de 27 ans, Gabriel de Tournemire est agrégé de lettres modernes et ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon. En 2021, dans le cadre de son service civique, elle a passé un an dans un foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap mental à Bruxelles. Cette expérience lui a permis d'observer un silence persistant autour des relations affectives et amoureuses des personnes en situation de handicap. Alors que l'accent est souvent mis sur l'accompagnement dans l'accès à l'emploi ou l'autonomie dans le logement, la question des relations amoureuses et sexuelles demeure absente, comme si elle relevait du tabou. Gabriel de Tournemire a pris conscience de l'occultation de ces enjeux par une société infantilisante qui préfère effacer les questions liées aux relations affectives de peur d'ajouter des difficultés à des vies perçues comme étant complexes. Ce constat l'a conduite à raconter une histoire d'amour entre deux personnes en situation de handicap, traversée par un désir affectif commun à toutes et tous.
Des enfants uniques, c'est l'histoire passionnante de l'amour entre Hector et Luz, deux jeunes adultes qui se sont rencontrés à l'adolescence au Chêne Rouge, établissement secondaire pour adolescents en situation de handicap. Hector a un coup de foudre pour Luz, cette jeune pleine de vie dont le rire remplace la parole. Ce roman suit leur adolescence et le début de leur vie d'adulte. Car oui, le premier roman de Gabriel de Tournemire nous fait bien comprendre quelque chose. Tous les enfants finissent par grandir, même Hector et Luz, bien que leurs parents aient du mal à l'admettre. Cette histoire retrace la vie des deux jeunes, la difficulté d'élever un enfant en situation de handicap, avec les différences d'autonomie qui peuvent parfois faire culpabiliser les parents. Les petites victoires et les grandes difficultés d'une société qui a du mal à accepter que Hector et Luz grandissent eux aussi. Mais leur amour incompatible aux yeux du monde doit outrepasser de grands tabous. Les relations sexuelles, l'autonomie ou la possibilité de faire ses propres choix, ce roman pointe du doigt l'infantilisation des personnes en situation de handicap dans notre société, tout en mettant en lumière les aidants professionnels et les familles qui vivent ces difficultés en même temps que ce nouveau couple, parfois oublié dans les choix de leur propre vie. Au fil du roman, nous découvrons avec justesse les personnages, leur vie, mais aussi leurs émotions, qu'on comprend de plus en plus quand on décide enfin de les écouter.
Avec son livre, Gabriel de Tournemire nous met face à l'enjeu contemporain de la stigmatisation des personnes en situation de handicap. Antoine, toi, ça te fait penser à un film qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Tout à fait, ça me permet notamment de faire le lien avec le grand succès cinématographique de 2024. C'était évidemment un petit truc en plus, réalisé par l'humoriste Artus.
On peut y aller là.
Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur?
Fils de pute!
Le casting de cette comédie est principalement composé de personnes touchées par des anomalies telles que la trisomie 21 ou l'autisme. Artus nous a donc offert l'occasion à ces acteurs d'être au devant de la scène du Festival de Cannes. Malgré l'accès inadapté aux personnes invalides, le film a été acclamé par le public. On a pu les voir sur un autre jour alors que les métiers de comédien ne semblent pas à première vue destinés aux personnes en situation de handicap. Ce film a donc été l'occasion de porter la voix des personnes marginalisées par la société. Finalement, il prouve au public que la comédie n'est pas réservée aux personnes valides. Artus vous a montré que eux aussi ont leur place au cinéma et dans la culture.
Pour revenir à la littérature, si cela vous a donné envie d'en découvrir plus, vous pourrez rencontrer Gabriel de Tournemire au festival Effraction le 20 février 2026 à 17h à la Gaîté Lyrique. Une belle occasion d'échanger avec elle autour de son roman. Et le festival dure, on le rappelle, du 18 au 22 février à la Gaîté Lyrique et à la BPI.
Merci beaucoup à vous trois pour cette recommandation. N'hésitez donc pas à venir rencontrer Gabriel de Tournemire. Place maintenant au spectacle vivant avec une création qui promet d'être marquante. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Safia, Nouran et Asia. Vous êtes ici pour nous présenter la pièce de théâtre X Variation que vous pourrez aller voir du 12 au 14 juin 2026 au Théâtre de la Bastille. Merci beaucoup à vous trois pour cette recommandation littéraire. Place maintenant au spectacle vivant avec une création qui promet d'être marquante. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Safia, Nouran et Asia. Vous êtes ici pour nous présenter la pièce de théâtre X Variation. Merci d'être avec nous.
Merci à vous. Le 29 janvier dernier, les étudiants de l'Université Sorbonne Paris Nord ont fait la découverte de la pièce X Variation au Théâtre Ouvert. Pièce mise en scène par Marcos Caramen Blanco et Sacha Stark, qui jouent le rôle du personnage principal. Dans cette pièce, on suit un personnage de sa naissance à l'âge adulte. On explore différentes étapes de la violence, sociale, familiale ou encore historique. Ici, ce dernier ne se définit pas par un genre. L'intérêt et l'accent sont mis sur la mise en scène, le travail visuel, les sons. On suit avant tout l'évolution d'un personnage intersexué qui subit les jugements de la société. Nouran, Safia, vous avez fait partie de ce groupe d'étudiants qui a découvert la pièce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus et en quoi le thème est-il original pour vous ?
Tout d'abord, pour vous le rappeler, la pièce raconte l'histoire d'une personne intersexuée, de sa naissance jusqu'à ses 17 ans. À travers les différentes étapes de sa vie, elle met en lumière les difficultés, les questionnements et les incompréhensions auxquelles elle est confrontée. Elle montre ainsi à quel point vivre dans cette situation peut être complexe, tant sur le plan personnel que dans le regard de la société.
Pour rebondir sur ce que Safia disait, ce qui m'a vraiment marqué dans cette pièce, c'est qu'on lève le voile sur un sujet dont on ne parle quasiment jamais. Au-delà du parcours de cette personne, c'est une vraie réflexion sur comment on trouve sa place dans le monde. C'est tellement rare de voir ce thème abordé au théâtre que ça en devient une œuvre vraiment nécessaire. On ne suit pas juste une histoire, on est plongé dans une réalité humaine très forte et c'est cette rareté qui rend la découverte aussi percutante.
Très bien, vous m'expliquez donc que vous avez été marqué par la mise en scène et l'osmose entre le personnage et tout ce qui l'entoure. Mais il est important de souligner que X Variation est un seul en scène, c'est-à-dire qu'un seul acteur joue toute la pièce. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? En quoi cette particularité vous a marqué ?
Pour ma part, j'ai l'habitude d'assister à des pièces de théâtre, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'en vois une portée par un seul acteur. Donc j'ai vraiment été impressionnée par son talent et par sa capacité à rendre la pièce vivante et dynamique malgré le fait qu'il soit seul sur scène. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Nouran.
Alors moi, j'avais déjà vu des pièces de théâtre seules en scène, mais d'habitude, j'aime pas ça. Je trouve que c'est souvent trop long, trop lent, et le rythme, il n'est pas assez soutenu. Mais là, au contraire, du coup, grâce à la mise en scène, les jeux de lumière, le son, j'ai été totalement transportée. Le rythme, il était super entraînant et on ne décroche pas une seule seconde.
Vous parlez justement de la lumière comme moteur majeur de la mise en scène de la pièce. En quoi, selon vous, cet élément a influencé la manière dont est jouée la pièce ? Et qu'est-ce que cela peut provoquer comme émotion, comme ressenti chez le spectateur ? Safia, vous pouvez peut-être nous en dire plus à ce sujet ?
Selon moi, la lumière joue un rôle essentiel dans la pièce, notamment dès la première scène qui représente la naissance du personnage. C'est une scène qui se déroule entièrement dans l'obscurité, sans aucune lumière. J'ai interprété ce choix comme une représentation du flou entourant sa naissance, puisque le personnel médical ne parvenait pas à déterminer s'il s'agissait d'une fille ou d'un garçon. Donc selon moi, cette absence de lumière rend la scène particulièrement intense sur le plan émotionnel, car elle m'a permis de me mettre à la place du personnage et de ressentir son incompréhension, comme s'il était voué à ne pas être compris dès sa naissance et tout le long de sa vie au final.
D'accord. Hormis la lumière qui a visiblement été un point assez marquant, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui a impacté votre expérience ? Peut-être le maquillage, les costumes ou la mise en scène en général ? Est-ce que ça a vraiment aidé ? Est-ce que ces maquillages et ces costumes ont facilité la mise en scène ? Et est-ce que cela s'est fait dès l'entrée sur scène du personnage ?
Oui, effectivement, je pense que le maquillage et les costumes sont de véritables outils de mise en scène. Ils donnent vraiment de la chair au texte. Ce qui est fort, c'est ce visuel très marqué dès le début, comme vous l'avez dit. On est plongé dans le noir, on assiste à cet accouchement avec du liquide fluorescent qui jaillit partout. Au début de la pièce, le maquillage, il est très prononcé, ce qui capte immédiatement le regard. Puis au fil de la pièce, tout s'épure. L'acteur enlève son maquillage, les costumes deviennent très minimalistes. Et c'est ce contraste qui rend l'expérience aussi organique et percutante. On est vraiment happé par cette évolution visuelle.
Très pertinent. Merci à toutes les deux pour ces deux éclairages et ce regard sensible sur X Variation, pièce qui interroge autant par sa forme que par son message.
Merci à vous trois pour cette recommandation culturelle. Je tiens à remercier le festival Effraction pour ce partenariat. Avant de clore cette émission, je tiens à rappeler solennellement que Radio Campus et 13e Monde s'engagent fermement contre les violences sexistes et sexuelles et apportent leur soutien inconditionnel à toutes les victimes. Si vous êtes témoin ou victimes de violences faites aux femmes, même en ligne, des permanences téléphoniques nationales existent pour vous écouter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lors d'appels anonymes, notamment au 3919, le numéro de Violence Femmes Info. Merci à toute l'équipe, Masten, Nathan, Nicolas, Nishta, Emma, Alice, Lisa, Anton, Anna, Laurie, Larissa, Nixana, Safia, Asia, Priscilla et Nouran. Merci également à Elio, Ahmad et Adam à la réalisation et celles et ceux qui ont participé en amont à l'écriture et la préparation de cette émission. Nous remercions le festival Effraction pour ce partenariat. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos podcasts, de notre web radio 13e Monde sur Spotify et nous suivre sur notre compte Instagram @13e Monde. Vous pourrez retrouver cette émission et l'ensemble des productions de Radio Campus Paris en ligne sur le site radiocampusparis.org. Merci à vous.
La fin du silence.
L'émission
qui donne voix à ce que l'on chuchote.
Traitement de l'actualité par les étudiants de la Sorbonne Paris-Nord.